Là, nous allons continuer la recherche au point de vue philosophie morale religieuse. Je précise bien. Notre effort est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans une éthique religieuse, à la différence d'une éthique proprement humaine. C'est-à-dire, en comprenant que l'éthique humaine se noue autour de l'amour d'amitié, dès qu'il y a découverte de l'être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu, dès qu'il y a le problème de la création, il y a immédiatement un nouveau développement qui se fait au point de vue humain. Et ce développement, nous avions vu que c'était l'adoration, la dévotion et l'aspect sacrifice au niveau liturgique. Alors on s'était posé la question, est-ce qu'il y a un développement particulier du côté de l'obéissance ? Autrement dit, est-ce que la vertu d'obéissance, comme telle, est-elle typiquement religieuse ? Ou est-ce que la vertu d'obéissance peut apparaître dans une éthique proprement humaine ? C'est une question intéressante et importante, évidemment. Elle est très liée à l'aspect éthique-politique. On pourrait se dire que c'est à l'intérieur de la famille que l'obéissance va apparaître. Et c'est vrai que pour les anciens, l'obéissance apparaissait, pour les anciens je parle ici d'Aristote, parce que pour Platon il n'y a pas de famille, alors c'est facile, tandis que pour Aristote il y a une famille. Alors est-ce qu'au niveau proprement familial apparaît le point de vue d'une vertu d'obéissance ? Je crois qu'au point de vue familial, une vertu d'obéissance apparaît dans un aspect d'imperfection du reste. Pour Aristote, ce n'est pas une vertu l'obéissance, au sens strict, parce que c'est le propre de l'esclave, de l'enfant et de la femme. Alors comprenez bien, hein. Comprenez bien, pour ne pas faire de révolution, n'est-ce pas ? Je parle d'Aristote, hein. Saint Thomas a repris ce point de vue-là. C'est intéressant, du reste. Pourquoi Aristote considère qu'il n'y a pas là de vertu ? C'est plus son point de vue, les principes qu'il donne, qui sont plus intéressants peut-être à saisir que les conclusions, n'est-ce pas ? Parce que nous prendrions d'autres conclusions aujourd'hui, c'est bien évident, si on essaie de faire une philosophie de la famille. C'est qu'Aristote considère que l'esclave, il est esclave fousei, par nature. Il est esclave parce qu'il ne peut pas avoir de prudence. L'homme libre, c'est l'homme qui est capable de la prudence, et de la vertu de prudence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus prudentes que les hommes. C'est un fait. Donc, la perspective d'Aristote serait différente que celle qu'il donnait. C'est un fait que, pour l'esclave, il ne peut pas avoir de prudence. L'homme esclave aurait la vertu de prudence, son maître devrait le libérer. Il n'a pas le droit de maintenir esclave un homme qui acquiert la vertu de prudence. Tandis qu'un homme qui est incapable de la vertu de prudence, et Aristote dit, certains seront incapables d'acquérir la vertu de prudence. C'est ce que certains disent. Alors à ce moment-là, ils sont bons pour être moines. Parce que ils ne peuvent pas acquérir la vertu de prudence, mais ils peuvent obéir comme de bons esclaves de Dieu, quoi. Après tout, alors ils ont besoin d'une obéissance très 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 stricte Ils ont besoin d'être dans une boîte bien, bien déterminée, avec un travail bien précis, un horaire extrêmement précis, qu'on ne change pas, qu'on ne modifie pas, parce que dès qu'on modifie tout de suite, le point de vue de la prudence intervient. La souplesse, la prudence, c'est la vertu d'une très grande souplesse. L'obéissance n'implique pas de souplesse, elle implique l'exécution, tout simplement. Alors, pour Aristote, c'est net, c'est intéressant au point de vue des principes, c'est très intéressant de voir que pour lui, l'esclave comme tel ne peut pas acquérir, n'a pas la prudence, ne peut pas avoir la prudence. Donc, il ne peut avoir qu'une obéissance matérielle. On dirait une obéissance matérielle, une obéissance de l'ordre de l'exécution. Il ne peut pas avoir de prudence, donc il ne peut pas avoir de vertu d'obéissance. Au fond, on serait en face d'une disposition qui permettrait de comprendre ce que c'est que obéir, coopérer. Il prend toujours l'exemple de la coopération de l'esclave avec le maître. Et il dit que c'est pour le bien du maître, comme c'est pour le bien d'esclave, de coopérer ensemble. La coopération entre l'esclave et le maître, et c'est pour les deux. C'est bon pour les deux. Donc c'est vertueux de la part du maître, et ça participe à la vertu de la part de l'esclave. Mais c'est qu'une participation. Parce que justement, il ne peut pas avoir de prudence. Alors, ce n'est qu'une participation. Il est un instrument. L'esclave est un instrument du maître. Mais un instrument non pas dans l'ordre de l'efficacité, mais dans l'ordre de l'action, de la praxis. Donc dans l'ordre de l'action. Donc dans l'ordre moral. Dans l'ordre moral, il est relatif au maître. Il est partie du tout qui est le maître. Et donc, il doit obéir. Mais l'obéissance qui est requise ne pourra jamais aboutir à une vertu. Très curieux, c'est très intéressant. Il ne dit pas ça comme je vous le dis, j'explicite un peu, mais les principes sont très nets. C'est très très net. Le rapport entre l'esclave et le maître, c'est un rapport qui reste humain, qui peut aboutir à une certaine amitié, mais comme il n'y a pas de prudence, ne peut pas aboutir à une amitié parfaite. Comme il n'y a pas de prudence, ça ne peut pas engendrer la vertu d'obéissance. Donc on est en face d'une vertu incoative, uniquement dans l'ordre de l'exercice. Et c'est le premier moment de l'obéissance. Alors il dit la même chose pour l'enfant. L'enfant, alors il ne dit pas jusqu'à quel âge, mais pour les Grecs, mettez hein, jusqu'à 15 ans. Comme on a fait des progrès maintenant, ce n'est plus 15 ans. Mais pour les Grecs, c'était à peu près 16 ans. L'enfant devait obéir à ses parents. Mais il ne dit jamais que l'enfant doit acquérir une vertu d'obéissance, parce que je crois que c'est la même chose. Il doit obéir tant que sa prudence n'est pas suffisamment éveillée. Alors il est un enfant, c'est-à-dire il fait partie d'un tout, parce qu'il n'a pas la prudence. La prudence est une vertu intellectuelle dans l'ordre pratique. Il faut un certain développement de l'intelligence pour être prudent. Or, l'enfant ne l'a pas. Il est pris par les passions. Quelqu'un qui est pris par les passions ne peut pas être prudent. Et donc, il doit avoir l'humilité, la lucidité de comprendre qu'il ne peut pas être par lui-même prudent, parce qu'il est trop pris par les passions. Alors, il lui faut, à ce moment-là, vivre en état de dépendance vis-à-vis d'un autre. Mais ce n'est pas encore la vertu d'obéissance. Alors, pour la femme, il prendra un autre raisonnement. Il dira, pour la femme, son intelligence ne peut pas se développer suffisamment pour qu'elle puisse avoir la vertu de prudence. Et donc, il est bon pour la femme, elle aussi, d'obéir dans l'ordre de l'amitié vis-à-vis de son époux. Alors, on ne peut pas dire que dans la perspective aristotélicienne, la vertu d'obéissance apparaisse au niveau de la famille. Est-ce qu'au niveau de l'État, il y aurait une vertu d'obéissance? Alors là, ce serait déjà plus complexe. Pour lui, avec le citoyen libre, un citoyen libre qui est un citoyen et en même temps un honnête homme. Fameuse question de savoir si le citoyen comme citoyen, aura la même vertu que l'honnête homme. Question sur laquelle Aristote tourne autour avec du plus et du moins, certains moments. C'est très très délicat, c'est très très difficile. Et je comprends que c'est très difficile, la question est très très délicate. Savoir si, de fait, la vertu de l'homme privé, la vertu personnelle de la prudence, par exemple, est la même pour l'homme privé que pour le citoyen. Cachetan qui dit, et à la suite de saint Thomas, saint Thomas le dit lui-même, « Homo ut homo es pars civitatis ». Et donc, quand il dit « homo ut homo », l'homme comme homme est partie de la société, il veut montrer que l'homme vertueux doit être partie d'une communauté politique. C'est plus la famille, hein, mais c'est une communauté politique. Et donc, d'une certaine manière, la prudence de l'homme privé va permettre à cet homme privé d'avoir une prudence politique. Donc, il y aura une prudence politique. Et donc, commander à des hommes libres va impliquer une certaine vertu. Mais au fond, on ne l'a pas développée du tout. C'est très, très curieux. La vertu d'obéissance n'est pas développée au niveau politique. Mais elle est impliquée, je dirais. Puisqu'au fond, on doit obéir aux lois. Obéir aux lois en faisant le discernement de savoir si ces lois sont bonnes ou mauvaises. Parce que l'obéissance des lois demande ce discernement, donc demande un discernement prudentiel pour que la vertu d'obéissance naisse. Alors, je crois qu'on pourrait dire, vous voyez, qu'au niveau politique, il y a une certaine vertu d'obéissance. Mais ce n'est qu'avec l'aspect vertueux, ce n'est qu'avec l'aspect religieux que la vertu d'obéissance va apparaître d'une façon beaucoup plus nette. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que la vertu d'obéissance apparaît au niveau proprement éthique religieux. Il faut essayer d'établir ça, comprendre comment on peut dire. C'est intéressant pour toutes les traditions religieuses et pour toutes les cultures religieuses. L'Inde, la Chine. On verrait si de fait ces cultures qui sont des cultures religieuses, nous, nous avons une culture chrétienne et comme cette culture chrétienne n'est plus très en acte, on dégringole plus bas que les autres. C'est un fait. Vous voyez, quelqu'un qui vient de l'Inde en Europe, il est frappé de voir le peu d'attitudes religieuses. Je me souviens de quelqu'un qui me l'a dit ouvertement, du reste. Il m'a dit, c'est quand même curieux de voir que l'aspect religieux est tellement peu développé. Il y a l'aspect laïque. Alors l'aspect laïque fait qu'on développe avant tout le point de vue de l'homme. Et on est fier de développer l'homme, oubliant que l'homme ne peut rester homme que s'il est religieux. Au sens très très fort. Au bout d'un certain temps, ça s'use très vite. Mais c'est important de comprendre que l'aspect chrétien, qui n'est pas premièrement religieux, et qui est premièrement l'aspect des vertus théologales. Que l'aspect chrétien, s'il ne demeure pas avec les vertus théologales, va tomber plus bas que les traditions religieuses. C'est le fait que nous constatons, si vous voulez. Les chrétiens ont perdu les vertus théologales, et en perdant les vertus théologales, ils perdent l'attitude religieuse. Si on a les vertus théologales, alors, on comprend que ces vertus théologales vont, de fait, assumer la patte humaine, et pour l'assumer pleinement, il faut des adorateurs en esprit, en vérité. Et la patte humaine sera assumée par la grâce, par le point de vue de la vertu. Alors, la vertu de religion va assumer la patte humaine. C'est le passage des vertus théologales à l'aspect moral. Mais si les vertus morales, si les vertus théologales ne sont plus en acte, je crois qu'à ce moment-là, il y a une chute très très forte. Et au fond, l'aspect religieux disparaît. C'est ce que nous constatons. Il faut essayer de comprendre un peu ce phénomène de dégradation d'une culture chrétienne. Parce qu'on assiste à une dégradation d'une culture chrétienne, en majorité. Vous voyez ce qui représente la culture d'aujourd'hui, la culture française d'aujourd'hui. Hein. Quand vous voulez tâter le pouls de la culture française d'aujourd'hui, alors est-ce qu'il y a encore quelque chose de religieux ? Non. On respecte vaguement, mais au fond, on ne peut plus dire que ça fait partie du climat normal. Ça semble même quelque chose d'assez invraisemblable. Alors que, au début, quand il y avait une culture chrétienne, l'aspect religieux était reconnu comme essentiel. On ne peut pas être chrétien sans être religieux. Religieux au sens, vous voyez, au sens de la vertu de religion, pas au sens état religieux, mais au sens vertu de religion. Parce que c'est toujours les équivoques quand on dit religieux. Être religieux au sens propre, philosophique, c'est la vertu de religion. C'est comme être honnête, c'est comme être prudent. Vous voyez ? Un homme n'est parfaitement homme que s'il y a cette dimension de dépendance à l'égard du Créateur. Alors, on voit bien ça, on voit bien cette dégradation. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que la dégradation d'une culture chrétienne ira plus loin et descend plus loin que la dégradation de la culture de l'Empire. Ça, c'est sûr. Qui était religieuse, mais qui n'était pas plus. Et on assiste à une dégradation plus grande. Cette dégradation plus grande atteint plus profondément l'homme. Et l'homme devient plus barbare. Si on n'est plus, je crois qu'une culture qui n'est plus chrétienne devient barbare. C'est certains sociologues l'ont noté ces derniers temps avec beaucoup de force en disant qu'on devient, de fait, perdant le sens chrétien, on devient quelque chose de plus bas. Infra-humain, barbare dans le sens infra-humain, dans le sens que quelque chose qui n'est plus... Bon, alors, notre propos, c'est d'essayer de saisir comment une éthique religieuse, c'est-à-dire une éthique qui reconnaît la dépendance à l'égard d'un être premier, cette éthique religieuse va impliquer l'éclosion d'actes d'obéissance. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de saisir. L'obéissance n'est vraiment obéissance, c'est-à-dire un acte humain parfait, que lorsqu'on reconnaît une autorité. C'est la reconnaissance d'une autorité qui me permet d'obéir à cette autorité, c'est-à-dire de coopérer avec cette autorité. De coopérer en vue d'un bien qui serait plus grand que si je ne coopérais pas. Et c'est cet acte humain d'obéissance répétée qui va engendrer progressivement la vertu d'obéissance. Alors je crois qu'on peut dire que la vertu d'obéissance a un enracinement religieux, comme vertu. Elle a un enracinement religieux. Alors, comment l'aspect proprement religieux va permettre la découverte de l'autorité. Il y a cette parole qui est importante, évidemment c'est une parole qui est dans la révélation, que j'ai le droit de considérer comme tradition religieuse, au point de vue philosophique. Toute autorité vient de Dieu, et toute autorité est paternelle. Parce qu'elle vient de Dieu, elle est paternelle. Alors, ça, je ne m'en sers pas comme d'un principe, hein. Je m'en sers comme d'un signe où, dans une tradition religieuse, dans une révélation, on dit toute autorité vient de Dieu. Alors, comprenons que par la découverte du Créateur, je découvre Dieu dans son autorité vis-à-vis de moi. L'acte d'adoration qui est un acte d'amour, un acte volontaire d'amour, je reconnais ma dépendance radicale à l'égard de Dieu et je l'adore, c'est-à-dire je lui remets entre ses mains ma vie. L'acte d'adoration, qui est un acte humain, un acte bon, me permet de découvrir une autorité suprême. Et dans la lumière de cette autorité, découverte par l'adoration, donc découverte à travers l'adoration, tant que je n'ai pas fait d'acte d'adoration, je ne reconnais pas Dieu comme ayant autorité. C'est par l'adoration que je reconnais l'autorité de Dieu, que je reconnais Dieu comme Père, que je reconnais Dieu comme Créateur et comme Père, donc exerçant sur moi et pouvant exercer sur moi une autorité. Je m'aperçois où cette autorité est exercée et comment elle est exercée. Je m'aperçois que dans certaines traditions religieuses, on voit que Dieu éduque son peuple. Je parle ici, par exemple, de la tradition judaïque. Dieu éduque son peuple par Moïse, par un législateur. Un législateur qui est revêtu d'une autorité qui n'est plus simplement une autorité humaine, mais qui vient une autorité qui vient de Dieu. Et Dieu donne à son peuple une loi. Puis-je considérer ceci comme universel? Est-ce que la loi donnée au peuple d'Israël, au plan philosophique, peut être considérée comme une loi donnée à tout être humain qui reconnaît sa dépendance à l'égard du seul, unique, vrai Dieu? Mais problème philosophique, hein. Se pose pas beaucoup en Sorbonne, mais c'est quand même un problème philosophique. Si je vais jusqu'au bout des exigences de la philosophie, je n'ai pas le droit de ne pas l'envisager. Autrement, c'est un a priori. Dire ça n'a pas d'importance. Non, c'est important, puisqu'il s'agit de comprendre comment cette autorité divine que j'ai reconnue par l'adoration va se manifester à moi. Bon, une des premières manifestations qui est donnée, c'est celle-là. Alors, je peux regarder la loi comme précisant toutes les exigences humaines d'une morale religieuse. Premier commandement, c'est l'adoration. Et je comprends très bien qu'il y ait ce commandement de l'adoration, étant donné que c'est si difficile pour l'être humain de reconnaître cet état de dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc c'est Dieu qui vient au-devant. Et comme ça fait partie d'une tradition religieuse, j'ai le droit philosophiquement d'adopter certaines traditions religieuses. Si je la considère comme bonne, je n'ai pas le droit de dire ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai le droit philosophiquement de regarder que la loi donnée par Moïse représente une législation ou une éducation divine qui est bonne. Et je peux étudier à ce moment-là les différents commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu vont donc m'apporter quelque chose de nouveau, c'est qu'à la place d'adorer simplement en adorant, je vais reconnaître une autorité de Dieu à travers cette tradition religieuse. Et il y aura un acte d'obéissance. Je crois que je puis le faire. Au plan philosophique. Parce que la tradition religieuse est une chose vénérable, comme disent les anciens Grecs, hein, c'est pas moi qui invente ça, c'est Plotin qui dit ça. Les traditions religieuses sont vénérables, parce que si vraiment elles viennent de Dieu, et si elles viennent de sages, si je veux être pleinement homme, j'écoute les sages. Or, ils me disent ces choses-là. Ils me donnent ces choses-là. Et donc, j'ai parfaitement le droit d'entrer dans cette perspective, de comprendre qu'il y a là une autorité qui m'a été transmise, qui m'a été donnée, et qui me donne une éducation d'un type tout à fait particulier, qui n'est pas du tout l'éducation telle qu'on la trouve dans Platon. dans la République. Bien que, alors c'est là où je retrouve deux traditions, bien que Platon dise lui-même dans la République que ceux, le philosophe, ceux qui doivent légiférer, doivent en premier lieu légiférer à propos du culte. Parce que une politique ne peut être humaine que si elle est religieuse. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais je dirai que l'aspect religieux apparaît comme le premier moment de l'éducation. C'est quand même très curieux de retrouver Platon et de retrouver Moïse. Tous les deux disent ça. L'un d'un côté philosophique, avec tous les défauts que s'il peut avoir au point de vue philosophique, mais il y a quand même cette rencontre, d'une part de Moïse, d'autre part de Platon. Et si je peux ajouter, Plotin. Plotin, dans une perspective néo-platonicienne, dira la même chose. Que de fait, l'aspect religieux est premier. Est-ce qu'on retrouverait ça chez nos philosophes modernes? Je crois que chez Leibniz, avec toute sa théodicée, évidemment c'est un théologien, c'est un philosophe moderne qui est déjà assez ancien, mais qu'on considère comme le dernier grand scolastique, Leibniz. Et pour Leibniz, la théodicée est une chose absolument nécessaire, pour le point de vue éthique. Donc vous voyez qu'on retrouve, par le point de vue religieux, une éclosion d'une attitude d'obéissance à l'égard de l'autorité de Dieu, du législateur, de Dieu comme législateur. Et je peux reprendre alors tous les commandements de Dieu comme me montrant, m'indiquant avec précision l'orientation de ma vie. De sorte que je crois, que je peux dire que par le point de vue religieux, et par les traditions religieuses, la vertu d'obéissance apparaît comme une vertu qui est humaine et qui n'est pas seulement, voyez, un exercice de quelqu'un qui n'a pas assez de prudence. Je crois qu'en effet, tant qu'on n'est pas arrivé au niveau religieux, il y aura uniquement ce point de vue de l'exercice d'un acte religieux. Mais pas une vertu. Tandis que là, par la prudence, la vertu apparaît. Pour que la vertu apparaisse, qu'une vertu morale apparaisse, il faut toujours l'éclosion de la prudence. Je ne peux pas exercer un acte vertueux, je ne peux pas exercer un acte d'obéissance vertueux sans la prudence. Et les deux se tiennent, c'est pour ça que c'est si important de bien voir ça. Vous avez donc les deux facteurs sine qua non de l'apparition de la vertu d'obéissance, le point de vue religieux et le point de vue prudentiel. Pas de vertu d'obéissance sans ce point de vue religieux, sans ce point de vue prudentiel. Et dès qu'il y a la prudence et dès qu'il y a l'attitude religieuse, alors la vertu d'obéissance peut apparaître.
Oui. C'est une vertu morale ou une vertu intellectuelle?
Ah, morale. Du côté volontaire. Vous voyez ? Tandis que la prudence est du côté intellectuel. C'est une vertu éthique, mais intellectuelle. Tandis que le point de vue de l'obéissance est une vertu morale. Quand on dit morale, on veut dire volontaire, vous voyez ? C'est une vertu une vertu volontaire, donc avec tout le point de vue affectif. Tout le point de vue de la volonté, je veux obéir. Et l'obéissance est de ce côté-là. Alors évidemment, elle implique un lien avec le point de vue de la prudence. Je crois qu'on ne peut pas exercer la prudence, on peut pas exercer un acte d'obéissance au niveau vertueux sans la prudence, sans le point de vue prudentiel et sans le point de vue religieux. Alors, on peut se poser la question, est-ce que l'autorité, dans cette perspective-là, va-t-elle apparaître autre part ? Selon les traditions religieuses, je vois que Dieu est devenu législateur. Il a éduqué son peuple. Et l'éducation qu'il a donnée à son peuple est une éducation qui est humaine. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas la recevoir. Du reste, on a fait, vous avez des parallélismes très curieux qui seraient très intéressants de reprendre avec la loi de Moïse et puis tout ce qui était de ce temps de Moïse. Il y en a vu qu'il y avait exactement parallèle. Alors c'est pour ça que pour certains, ce n'est plus la révélation. Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut tout simplement montrer que la loi de Moïse est donnée à un niveau religieux et ne fait pas appel explicitement à un contenu de foi. Tout ce qui est donné dans les commandements de Dieu peuvent se comprendre uniquement au niveau humain, un humain religieux. Ça ne fait pas appel à un contenu de foi. C'est la différence avec les béatitudes. Les béatitudes évangéliques, vous ne pouvez pas dire que c'est uniquement un contenu religieux. Il y a quelque chose d'autre. Parce que dans les béatitudes, sont impliqués comme modèle Jésus. Vous ne pourriez pas expliquer uniquement d'un point de vue religieux les béatitudes. Tandis que vous pouvez expliquer d'un point de vue purement religieux les 10 commandements de Dieu. Et les 10 commandements de Dieu relèvent de cette attitude purement religieuse. Mais quand je dis purement religieux, je veux dire une attitude de l'homme dans son développement humain. Supprimer l'attitude religieuse de l'homme, c'est amputer l'homme. L'homme est naturellement un être religieux. Et si vous supprimez ce point de vue et cette dimension religieuse, vous amputez l'homme d'une dimension humaine. Parce qu'il est normalement, il est naturellement capable de découvrir l'existence de Dieu. Il est capable de découvrir l'existence d'un créateur par sa pure intelligence, s'il est suffisamment intelligent. Évidemment, ça n'arrive pas toujours, hein, c'est sûr. Mais s'il est suffisamment intelligent, il peut découvrir l'existence d'un être premier, et il peut découvrir l'existence du Créateur. Et en découvrant l'existence du Créateur, alors à ce moment-là, il reconnaît sa dépendance à l'égard de ce Créateur. Alors la question se pose, est-ce que je peux, au point de vue religieux, découvrir d'autres autorités ? L'autorité du père de famille. Va-t-elle, par le point de vue religieux, avoir une nouvelle dimension? Je pose la question, il faut se la poser. Oui. Oui. Ah non, non, parce que alors là, vous êtes au point de vue chrétien. Oui, chez les Romains, il y avait le culte, les dieux de la famille. Et c'est pour ça que je dis, que c'est pour ça que je pose la question. Mais là, vous donnez le fait, sans donner la raison. C'est très vrai qu'au point de vue tradition religieuse, je vois que selon certaines traditions religieuses, la famille a quelque chose de sacré. Ça fait partie de traditions religieuses et de traditions purement religieuses. La famille a quelque chose de sacré. Si la famille a quelque chose de sacré, le point de vue de l'autorité du père, ainsi que l'autorité de la mère, ça dépendra des traditions religieuses, et donc relié à l'autorité de Dieu. Oui, et ça aboutira même au terme le pater familias. Hein. Et le pater familias romain aura le droit de vie ou de mort. Si le petit n'est pas assez mignon, hein, c'est pater familias. C'est le pater familias qui à ce moment-là dira, oh, bon, très bien, il a un certain droit. C'est très net, c'est l'autorité du père au point de vue de la vie des enfants, participation à l'autorité de Dieu. Alors on dira que c'est un abus, c'est très vrai, et on reconnaîtra philosophiquement que c'est un abus, parce que l'autorité de père ne peut être qu'une autorité participée, qui est au niveau non pas de la vie, mais au niveau de l'épanouissement de l'être humain pour qu'il acquiert sa propre personnalité. Mais je crois qu'on peut dire, alors c'est ça qui est assez délicat à préciser, on peut dire que, au point de vue religieux, dans une éthique religieuse, l'autorité du Créateur va être participée dans l'autorité du Père. Alors, on va essayer de voir, hein, il faut le justifier ça. Il faut le justifier. Philosophiquement, il faut le justifier. Il faut essayer de comprendre le fondement propre de cela. Je crois que c'est tout le problème philosophique de la création immédiate par Dieu de l'âme immortelle. Philosophiquement, nous pouvons montrer, c'est une conclusion de sagesse philosophique, hein. Donc elle est rare, mais elle est importante à noter. Aristote le disait, Platon a fortiori, c'est évident, Platon d'une autre manière, hein. Mais Aristote le disait, que l'âme spirituelle nécessairement était directement de Dieu. Il dit, elle vient d'autre part que des parents, donc elle ne peut venir que de Dieu. L'âme spirituelle est, selon certaines traditions, on peut le dire, on montre que l'âme spirituelle provient directement de Dieu. Je peux, philosophiquement parlant, dans un jugement de sagesse, montrer que l'âme spirituelle ne peut être que créée par Dieu. Elle ne provient pas des parents. Oui, c'est pour ça qu'on ressemble plus à Dieu qu'à ses propres parents. Ce qui nous libère complètement de tout complexe. Non. Parce qu'on ressemble plus à Dieu qu'à ses propres parents. On a une ressemblance, et c'est en ce sens qu'on peut, on peut aller plus loin. Parce qu'on dépend directement de Dieu. Il y a une espèce de dépendance immédiate vis-à-vis de Dieu. On est emmitouflé par le point de vue des gènes, on est emmitouflé par tout le point de vue de l'atavisme, tout le conditionnement qui nous prend profondément, mais il y a une dépendance directe vis-à-vis de Dieu. Bien, une fois qu'on reconnaît ça, et ça philosophiquement on peut le reconnaître, une fois qu'on reconnaît ça, on peut dire que la procréation n'est pas uniquement un acte humain. Que la procréation fait appel à un concours de Dieu, à un concours du Créateur. Et par le fait même, la procréation est sacrée. Elle n'est plus uniquement morale. Elle relève d'autres choses, ce que je crois très important à bien préciser. Parce que si on reste uniquement au niveau moral, on ne peut pas comprendre ce que représente la procréation. Vous voyez, dans toutes les traditions religieuses, il y a toujours des initiations qui montrent le caractère sacré de la procréation. Alors on dira, ce sont des mythes. Ah, derrière les mythes, il y a quelque chose. Il y a une initiation qui est montrée que le point de vue de la procréation est relié à un domaine qui dépasse l'homme. Alors on peut donc philosophiquement montrer que la procréation est du domaine sacré. Par le fait même, le père et la mère ont une autorité qui n'est pas uniquement une autorité humaine. C'est une autorité qui implique une coopération, donc une participation, avec l'autorité du Créateur. Autrement dit, la famille a donc une dimension qui n'est pas uniquement humaine et politique, elle a une dimension religieuse. Ceci permet de compléter ce que Aristote dit au point de vue de l'obéissance, c'est que l'obéissance à l'égard des parents honore ton père et ta mère peut impliquer quelque chose qui va aller beaucoup plus loin. C'est que l'autorité des parents étant reconnue comme une participation à l'autorité de Dieu, il peut y avoir vis-à-vis des parents une attitude de respect. Honorer ses parents. L'obéissance est limitée parce que dès que l'enfant grandit, l'orientation de sa vie ne dépend pas de ses parents. Alors là, ce seraient les abus. Parce que très très vite, on voit des abus du côté de l'autorité paternelle. Et ça aussi, ce serait très intéressant de regarder les abus. Parce que dès qu'on découvre que cette autorité et une participation à l'autorité divine, on risque tout de suite de tomber dans des abus. Les abus, c'est que les parents ont le droit d'orienter les enfants comme ils le veulent. Pater familias. Il reste toujours quelque chose, hein, du vieux romain en nous. Ça, c'est très vrai. Alors, il y a toujours un peu ça, le pater familias, qui veut jouer son rôle de père de famille et d'orienter ses enfants, parce qu'il les connaît beaucoup mieux. Il oublie que l'âme spirituelle en nous étant créée directement par Dieu, il y a quelque chose en nous que nos parents ne pourront jamais connaître. Il y a un secret de lien avec Dieu, par où nous avons une indépendance et une capacité d'orientation qui échappe à l'autorité paternelle. Donc, il faut saisir ça. Il faut saisir que l'autorité des parents, elle est une participation à l'autorité de Dieu. Elle va jouer un certain rôle. Est-ce que l'enfant est capable de le reconnaître? Ça, c'est autre chose. Est-ce que l'enfant serait capable de reconnaître cela? Je crois que par un point de vue purement naturel, il ne peut pas le reconnaître. Parce qu'il reste enfant jusqu'à 14 ans, 15 ans. Et c'est difficile à 15 ans de découvrir, au point de vue de notre intelligence, que les parents peuvent avoir une participation à l'autorité divine. Et donc, l'aspect prudentiel ne se développe pas dans cette obéissance vis-à-vis des parents. Mais il y a quelque chose qui se développe pour après, quand l'enfant a grandi, il a quitté la famille, honore ton père et ta mère. Ce n'est pas la vertu de ce n'est pas la vertu d'obéissance, mais c'est une vertu de piété filiale. La vertu de piété filiale est une conséquence encore de l'attitude religieuse. Donc il y a obéissance, piété filiale. Et la piété filiale, moi je mettrais plutôt la piété filiale à l'intérieur de la famille ou à l'intérieur des liens entre les enfants et leurs parents comme une vertu. C'est une vertu, la piété filiale. C'est pas très cultivé aujourd'hui, pas enfin, ordinairement, mais c'est quand même quelque chose qui existe, la piété filiale. Et la piété filiale consiste à reconnaître que les liens qui existent entre un enfant et ses parents, ce sont des liens qui viennent de Dieu, qui s'enracinent profondément dans l'autorité du Père des cieux, du Créateur. Et le jour où on s'en aperçoit cela, immédiatement, on comprend que nous sommes toujours, par rapport à nos parents, dans une attitude de celui qui a beaucoup reçu et qui n'a pas beaucoup donné. Alors, à ce moment-là, c'est la piété filiale qui commence à naître. Mais c'est le jour où on reconnaît qu'on a beaucoup reçu, et c'est vrai, puisque l'enfant est inconscient de tout ce qu'il a reçu, et qu'il n'a pas beaucoup donné, et que même souvent il a répondu d'une façon qui était très désagréable, n'est-ce pas? Parce qu'il n'avait aucune envie d'obéir matériellement et de se laisser conduire. Alors le jour où il comprend ça, il y a immédiatement le désir, non pas de réparer, c'est pas ça, mais de répondre d'une manière qui soit vraie. Honore ton père et ta mère. Alors c'est honorer dans la piété filiale. Respecter dans la piété filiale, en aimant, dans un amour. Il y a une vertu de piété filiale. Ça existe. Hein? Mais c'est lié à l'attitude religieuse. Le jour où l'attitude religieuse disparaît, la piété filiale disparaît. Oui, c'est ça qui me semble intéressant à souligner. Hein? C'est ces liens souterrains à partir de la vertu de religion. Et les éclosions qui se font à partir de cette vertu de religion. Là, nous voyons bien comment il y a comme éclosion de la vertu de religion au niveau de la famille, cette piété filiale. Je crois que ce sont les deux aspects qu'on peut prendre. Obéissance civique, obéissance qui est limitée, c'est évident, mais c'est quand même une obéissance. Et puis la piété filiale à l'intérieur du foyer. Pouvons-nous découvrir encore une autre vertu ? On verra ça la fois prochaine. à marée basse, est-ce qu'il y a encore autre chose qui apparaît ? Chercher, pour essayer de découvrir tout ce que la vertu de religion va impliquer virtuellement et qui va permettre à l'homme d'être plus homme. Puisque chaque fois qu'il y a une éclosion d'une vertu, c'est un habitus, et donc ça permet à l'homme de s'orienter plus profondément vers ce qui est son bien.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.